إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل بإذن الله عز وجل قراءتنا لكتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ سليمان بن عبد الله القصيري حفظه الله. وقد توقفنا في درسنا الماضي عند باب أو كتاب الزكاة، فشرعنا أو نشرع إن شاء الله تعالى اليوم في قراءة كتاب الزكاة. وقبل ذلك سؤال موجه إلى أخينا أركان، ما هو حكم إيصال القربات إلى الميت؟ Donc on poursuit بإذن الله la lecture du livre Manhaj Salikin, de l'explication de Cheikh Al-Qusayr, Hafizahullah Ta'ala. Et nous allons commencer aujourd'hui la lecture du chapitre concernant la zakat. Concernant la zakat, donc l'aumône obligatoire ou l'aumône légale, la zakat. Mais avant que l'on commence, bi'idhnillah, la question est: quel est le jugement du fait de faire parvenir la récompense d'une adoration à un mort? Est-ce que c'est permis?
Non, ce n'est pas permis.
Donc je n'ai pas le droit, par exemple, de faire une sadaqa à l'intention que la récompense de la sadaqa aille à un mort. J'ai dit adoration. Ah. Je n'ai pas précisé. Shahin.
Oui.
C'est permis? Naam, c'est permis. Est-ce que j'ai le droit de faire une prière? De faire une prière nafila, mathala nafila. Et je mets l'intention que la récompense de la prière aille à un mort. Sani.
Non.
C'est pas permis. Donc, quand est-ce que c'est permis? Quand est-ce que ce n'est pas permis? Le hajj, c'est permis ou pas le pèlerinage, le hajj?
Oui.
C'est permis. Mais qu'est-ce que, c'est quoi la règle alors dans ce cas-là? C'est quoi la règle qui va nous aider à savoir si c'est permis ou pas?
C'est la preuve.
Ouais, c'est
la preuve que cette chose est permis. Mm-hmm. On l'applique. S'il n'y a pas une preuve dessus,
on l'applique. Non. Il n'y a pas de doute que tous les jugements reposent sur des preuves. Non. Donc, de manière générale, ça concerne pas seulement ce chapitre-là, mais ça concerne tous les chapitres de l'adoration qui doivent impérativement reposer sur des preuves. Non. Shahin, tu voulais dire quoi? C'est quoi la règle, Abdullah? La règle sur le jugement concernant le fait de faire don de la récompense d'une adoration à un mort. On avait dit que, par exemple, à Sadaqa, l'aumône, c'était permis. Par contre, à Salat, non, c'est pas permis. Ou le Hajj, c'est permis. C'est quoi la règle qui nous permettra de savoir si c'est permis ou pas? On l'a mentionné la semaine dernière. On avait vu que les ibadat, les adorations, se divisaient en trois, en trois catégories. Al-Qasimu ila thalath aqsam. Al-Qism al-awwal, ibadat badaniya mahdha. Les adorations corporelles, yani exclusivement corporelles, telles que salat, la lecture du Coran, le dhikr, le jeûne. Donc lorsque l'adoration elle est strictement corporelle, ça veut dire qu'elle est attachée au corps de celui qui l'a fait. Et donc la récompense ne peut pas aller à quelqu'un d'autre. Taïeb, même si les savants ils ont divergé, lakin, l'avis correct, c'est que ce n'est pas permis. Il n'est pas permis de faire don de la récompense d'une adoration qui est strictement corporelle. Ibadat, puis on a les adorations qui sont strictement matérielles. Matérielles. Ibadat, maliya mahda. D'accord? Strictement matériel, comme la sadaqa. La sadaqa, c'est strictement matériel. Dans ce cas-là, c'est permis. Toute adoration qui sont strictement matérielles, hein, c'est permis. D'accord? La preuve, le hadith de Aïcha, anha, dans lequel un homme avait demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, comme quoi sa mère était décédée, soudainement, et que si elle avait eu le temps de parler, eh bien, elle aurait fait une aumône. Donc, est-ce qu'elle a la récompense si moi, je fais une aumône pour elle? Le prophète, il a dit, non, oui. Donc là, il y a un texte. Donc, comme il y a un texte, là, on dit que c'est bon. Et on fait rentrer dedans toutes les adorations matérielles. Et la troisième catégorie, ibadat, elles sont comment? Elles sont badaniya et maliya en même temps. Badaniya et maliya. Elles sont physiques et aussi corporelles et aussi matérielles. Comme par exemple, un exemple. Physique et matériel en même temps. Abdullah. Le sacrifice. Le sacrifice, on va le faire entrer dans le matériel. Dans le matériel. Non. Al-Hajj. Al-Hajj. Ou l'Umra. Donc, Al-Hajj, il y a des actes, bien sûr, que tu vas devoir faire avec ton corps. D'accord? Tous les rites, tu les fais avec ton corps. Mais c'est en même temps, c'est matériel. Parce que pour y aller, parmi les conditions d'obligation du pèlerinage, la capacité financière. Aller, retour, laisser de quoi subvenir aux besoins de ta famille, etc., etc. Donc, cette troisième catégorie-là également, c'est permis. Qu'on voit que la deuxième et la troisième catégorie, il est permis de donner la récompense à un mort. D'accord? Et la preuve du Hajj, lorsqu'un homme il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il lui a dit que son père ou sa mère, là, son père était très âgé et que donc il ne pouvait pas faire le pèlerinage lui-même. Très âgé, il était très faible. Le prophète il lui a dit, Hujja an abika wa atamir. Fais le pèlerinage à sa place pour lui et fais l'umra pour lui. D'accord? Donc que ce soit de son vivant ou après sa mort. De son vivant, s'il est très malade et que physiquement il ne peut pas, tu peux le faire à sa place à condition que toi tu l'as déjà fait pour toi. D'accord? Ou après sa mort, tu peux aussi faire des pèlerinages ou des umrah facultatifs avec l'intention qu'il obtienne la récompense. Ça y est?
Et d'abord, on doit faire l'obligation de nous-mêmes.
Bien sûr, bien sûr. Non, si toi tu n'as jamais fait la hajj ou la umrah, tu dois d'abord faire l'obligation pour toi. Non. طيب، كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة والطهارة، وفي الشرع حق واجب في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة، وسميت بذلك لأنها تزكي المال أي تنميه وتزيده. سميت زكاة لأنها تزيد المال وتنميه، لقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعن أبي كبشة الأنماري أو الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. الحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. ولأنها تطهر صاحب المال من البخل، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Donc on poursuit, on commence plutôt l'explication de chapitre de la zakat. Il dit ici le cheikh, Fidhaullah, que la zakat dans la langue arabe exprime ou peut exprimer premièrement un nama, la croissance, le développement, et aussi ziyada, l'augmentation. Et aussi at-tahara, la purification. Donc on a ici trois significations possibles du terme zakat: la croissance, l'augmentation, la purification. Mais dans la législation islamique, si on te dit qu'est-ce que c'est que zakat dans la législation, tu vas pas dire c'est ziyada, l'augmentation. Tu vas pas dire c'est la croissance. Tu vas pas dire c'est la purification, car ça c'est dans la langue arabe. Mais dans la législation islamique, tu vas dire c'est un droit qui est obligatoire. Wa alaykoum assalam wa rahmatoullah. C'est un droit obligatoire sur des biens spécifiques à un moment spécifique pour une catégorie spécifique de gens. D'accord ? Si on te demande c'est quoi zakat dans la religion, je dis c'est un droit obligatoire sur des biens spécifiques à un moment spécifique pour une catégorie spécifique de gens. Non. Est-ce que c'est bon? Là, c'est la zakat. Ça sent à l'audio, Arkan. Hein? Si tu veux revenir. Donc, tu trouves le stylo. Oui. Je répète ?
Non, c'est bon.
C'est bon ?
J'ai
répété dans ma tête. Wasumiyat bidhalik. Et donc, elle a été appelée comme ça. Pourquoi ? Premièrement, parce que elle, comme on a dit, elle augmente les biens de la personne. D'accord ? Elle augmente ses biens. Donc, dans le sens de l'augmentation ici. D'accord ? Ziyada wa nama. Lorsque tu donnes ta zakat, en fait, tes biens, ils augmentent. Et Allah, il met dedans la baraka. Donc, il y a une augmentation de baraka aussi dedans. Car il dit dans la sourate Saba, verset 39, dans le sens rapproché, « Et ce que vous avez dépensé, eh bien, il le remplacera. » Allah le remplacera. Elle est dépensée dans le bien, bien sûr. Et c'est lui le meilleur des donateurs. Et également, Kabsha, Al-Anmari a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: trois choses je jure sur elles. C'est-à-dire, je jure sur Allah pour appuyer ces trois choses-là. D'accord ? Je te rappelle, Abdullah, on a vu samedi par rapport au serment. On a, dans le domaine du serment, on a al-qasam, qui est le serment lui-même, le fait de jurer, wallahi, c'est un serment, c'est un qasam. On a al-muqsim, ce qui est le muqsim, c'est celui qui jure. Donc toi, quand tu jures, tu es un muqsim. On a al-muqsamu bihi. C'est quoi al-muqsamu bihi? Voilà, Hassan. Celui sur qui on jure. Donc nous, on jure que sur Allah. Donc Allah, il est muqsamun bihi. Et il se peut que une créature soit muqsamun bihi quand ça vient d'Allah, car Allah, il jure sur les créatures. Donc quand Allah, il dit wash-shamsi wa duhaha, ash-shams, c'est muqsamun bihi. D'accord? Puis on a muqsamun alayhi. C'est quoi muqsamun alayhi? Voilà, ce pourquoi on jure. D'accord? Muqsamun alayhi. Donc toi, quand tu dis wallahi, je dis la vérité, bien, le fait que tu dises la vérité, c'est ça, muqsamun alayhi, ce pourquoi tu jures. D'accord? Donc là, en fait, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois choses pour lesquelles je jure. Il dit, et je vous en parle, donc je vais vous en parler, je vais les mentionner, mémorisez-les. Et parmi elles, il dit, ma naqasa malu abdin min sadaqa. Les biens d'un serviteur ne diminuent pas par l'aumône ou en faisant l'aumône. Lorsque tu fais l'aumône, tes biens ne diminuent pas. Au contraire, ils augmentent. Ils augmentent. Soit fait dunya, à travers la baraka, ou à travers tout simplement une augmentation réelle, concrète, soit fait akhira. Et dans tous les cas, tes biens, ils augmentent. Le hadith rapporté par le Tirmidhi, qui est sahih, hasan. Et elle a été appelée comme ça aussi, az-zakat, parce qu'elle purifie le propriétaire de ces biens-là. Elle le purifie de quoi? De l'avarice. Donc là, c'est dans le sens de la purification. D'accord? Elle te purifie de l'avarice. Comme il dit Allah tabaraka wa ta'ala, khudh min amwalihim sadaqa. Dans le sens rapproché, et prend de leurs biens une aumône, qui les purifie, yani de leurs péchés, qui les purifie de leurs péchés, que ce soit l'avarice ou autre, wa tuzakkihim biha. Wa tuzakkihim biha. Naam. Comment ils ont traduit ici? Tuzakkihim biha. Vu que on a déjà le sens de la purification, donc quel est le sens de Tuzakkihim biha juste après? Ils ont traduit par et les bénis. Et les bénis. On va revenir au tafsir, c'est mieux. Naam, tuzakkihim ay tunammihim wa tazidu fi akhlaqihim al-hasana wa a'malihim as-salihah wa tazidu fi thawabihim ad-dunyawi wal-ukhrawi wa tunammi amwalahum. Donc, Cheikh Saadi, il dit, rahimahullah, premièrement, tutahhiruhum, c'est-à-dire, il les purifie des péchés, comme on a dit, et des mauvais comportements. Watuzakkihim, c'est-à-dire qu'il va augmenter leur bon comportement. Donc, en gros, il va enlever d'eux les mauvais comportements et les péchés, et il va mettre à la place ou y rajouter des bons comportements, des bonnes œuvres, et aussi la récompense, yani, ici-bas et dans l'au-delà. Et augmenter leur bien aussi. Donc, on a les deux sens. On a la purification des péchés, des mauvais comportements, et l'augmentation, au contraire, des bons comportements, des bonnes œuvres, et aussi des biens matériels. D'accord? Non, c'est pour ça qu'elle a été appelée Zakat. Taïm. Zakat, comme a dit le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, hiya ahamu arkan l'islam ba'da salat. Ahamu arkan l'islam ba'da salat, hiya zakat. ولذلك الله جل وعلا يقرنها بالصلاة كثيرا في كتابه الكريم. وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه أن تاركها بخلا يكفر، أن تاركها بخلا يكفر كتارك الصلاة كسلا، ولكن الصحيح أنه لا يكفر. والذين كفروا مانعها بخلا قالوا، قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فرتب الله ثبوت الأخوة في الدين على هذه الأوصاف الثلاثة، وهي إن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلا يمكن، قالوا لا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين. طيب، أما إذا فعل الكبائر فهو أخ لنا، إذا فعل الكبائر دون الشرك أو دون كفر فهو أخ لنا. مثلا القاتل عمدا، القاتل عمدا قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ماذا؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. مع أن قتل المؤمن وقتاله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. طيب، ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بكفر، ودل على كفر تارك الزكاة. طيب، دونك الزكاة، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: سي لو بيليي دو الإسلام لو بلوز امبورطون ابري لا بريير اي ابري بيان سور الشهادتين، اتيستاسيون دو فو. اي كوم فو سافي، الله تبارك وتعالى l'a associé à de nombreux endroits avec la salat. Ce qui nous montre que l'importance de la salat. Allah n'a pas associé le hajj avec la salat. De cette manière-là. Il n'a pas associé le jeûne avec la salat de cette manière. Il a associé la salat et la zakat dans plein de versets. Et aussi, il a été rapporté par l'imam Ahmed dans une de ses versions, qui dit que celui qui ne verse pas la zakat par avarice, eh bien, il a mécru. Il a mécru. Comme celui qui délaisse la prière par fainéantise. Il a mécru aussi. Mais il dit le cheikh de Thaymin, rahimahullah, que ce qui est correct, c'est qu'il ne mécroit pas. Puis le cheikh, il va développer un peu les arguments de ceux qui disent qu'ils mécroient. Des arguments qui sont forts. Il dit, ceux qui disent que celui qui ne verse pas la zakat, c'est un kafir. Premièrement, ils disent que Allah tabarak wa ta'ala, il a dit, le sens rapproché, et s'ils se repentent et accomplissent la prière et versent la zakat, ce sont vos frères en religion. Ce sont vos frères en religion. Donc on comprend par là qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a fait reposer l'affirmation de la fraternité en islam sur quoi? Sur trois choses. Sur le repentir du shirk, le fait de se repentir du shirk, première chose. Le fait d'accomplir la prière, deuxième chose. Et troisième chose, le fait de verser la zakat. Donc certains ont pris ce verset-là pour preuve en disant que celui, bien sûr, qui ne se repent pas du shirk, c'est pas un croyant. Ou celui qui ne fait pas la prière, c'est pas un croyant, c'est pas un frère en religion. Et celui qui ne verse pas la zakat aussi, c'est pas un frère en religion. T'as vu? Parce qu'il n'est pas possible d'annuler la fraternité en religion, sauf si la personne sort de la religion. D'accord? On peut pas dire à quelqu'un: t'es plus mon frère en islam, tant qu'il est croyant. Donc si tu penses que un tel n'est pas ton frère en islam, en gros, tu dis que c'est un kafir. D'accord? Par contre, si la personne, elle commet un péché majeur parmi les péchés majeurs, qui ne font pas sortir de l'islam, quel que soit son péché, eh bien, ça reste ton frère en religion. Même le meurtrier, Même le meurtrier qui a tué un croyant, qui a assassiné un croyant, bien sûr, qui sait que c'est interdit, qui reconnaît que c'est interdit, que c'est un grand péché, eh bien, c'est ton frère en religion. C'est un pervers, c'est un criminel, mais en religion, c'est ton frère. La preuve, c'est quoi? Allah tabaraka wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, vous a été prescrit le talion, le qisas, dans, sur les morts, ceux qui ont été tués, sur les tués. D'accord? Puis il dit: une personne libre pour une personne libre, un esclave pour un esclave, une femme pour une femme. On ne détaille pas le tafsir ici parce que certains ont dit que ce verset-là a été abrogé à ce moment-là. Al-Muhim, puis il dit: et quant à celui, et celui à qui on a demandé pardon, c'est-à-dire à la famille, aux proches de celui qui a été tué, d'accord? Et s'ils veulent accepter Diya, c'est-à-dire on appelle ça le prix du sang à la place de l'exécution, eh bien, ils ont le droit. Ils ont le droit, le ma'aruf, d'accord? Sans qu'ils soient forcés à quoi que ce soit. Ils ont le droit d'accepter Diya, le prix du sang. Al-Muhim, ce qui nous intéresse dans ce verset-là, ici, c'est quand Allah dit « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ » de son frère. D'accord? Donc quand Allah dit « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ » donc il dit que celui qui a tué, ben c'est son frère. En religion. D'accord? Bien que il ait assassiné ou il ait tué la personne, Allah il a dit « مِنْ أَخِيهِ » de son frère. Yani en religion. D'accord? Donc, bien que le fait de tuer un croyant, le fait de combattre un croyant, fait partie des péchés les plus graves, eh bien, on ne peut pas annuler la fraternité en religion, sauf par le kufr. Donc, tant que Allah tabarak wa ta'ala, il affirme le kufr, il affirme la fraternité en religion à une personne, ça veut dire qu'elle n'est pas tombée dans le kufr. Car sinon, Allah n'aurait pas utilisé le terme akhihi, son frère. D'accord? Non. Donc cela est la preuve, comme ils disent, ceux qui sont de cet avis-là, que celui qui ne verse pas la zakat, c'est un kafir. Par rapport au verset qu'on a vu, le premier. ثم يقول ولا شك أن هذا القول له وجه جيد في الاستدلال بهذه الآية. ولكن دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة ليس حكمها حكم الصلاة حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مانع زكاة الذهب والفضة وذكر عقوبته ثم يقول ثم يرى سبيله أي يرى هذا المانع من زكاته ثم يرى سبيله إما إلى الجنة إما إلى النار فلو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة أبدا. Dit les chers, il n'y a pas de doute que l'avis que l'on a mentionné, qui dit que celui qui refuse de verser la zakat, c'est un kafir, il n'y a pas de doute qu'il est bien argumenté. Il est bien argumenté et les preuves sont fortes. Mais il y a un hadith. Et vous savez qu'on doit regrouper tous les textes, que ce soit les versets coraniques ou les hadiths. On doit tout regrouper et après on fait un jugement. D'accord? C'est vrai que s'il n'y avait que ce verset-là, on aurait pu dire « Naam ». C'est vrai, celui qui ne verse pas la zakat, c'est un kafir. S'il n'y avait que ce verset. Mais il y a un hadith authentique que l'on retrouve dans Sahih Muslim, celui d'Abi Huraira, radiallahu anhu, qui a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir mentionné la personne qui refuse de verser la zakat sur l'or et l'argent. Puis il a mentionné dans le hadith le châtiment de cette personne-là. Mais à la fin, il a dit quoi ? À la fin, il a dit « Thumma yara sabilahu ». Et après, ensuite, il verra sa destination, son chemin. Il a dit « Imma ila jannah », soit c'est au paradis, soit c'est en enfer. Ça veut dire que, en fonction de ses actes, soit Allah il va le châtier et le met en enfer, soit il va aller directement au paradis. D'accord ? Donc juste la probabilité qu'il aille au paradis directement prouve que ce n'est pas un kafir. D'accord ? Prouve que ce n'est pas un kafir. Et ici, le prophète, il parle de celui qui refuse de verser la zakat par avarice. D'accord ? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si c'était vraiment un kafir d'un kufr faisant sortir de l'islam, il n'aurait jamais dit « Imma ila jannah ». Il aurait dit directement « Il va en enfer, c'est tout, khlas ». D'accord ? Non.
طيب.
ثم يقول وهي واجبة على كل مسلم حر على كل مسلم حر ملك نصابا وهي واجبة على كل مسلم لقوله تعالى وآتوا الزكاة ولحديث ابن عمر مرفوعا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أخرجه البخاري ومسلم ويشترط لوجوبها خمسة الشروط الأول الإسلام طيب الشرط الأول ما هو الإسلام فلا تجب على كافر فالكافر لا يجب عليه الزكاة الثاني الحرية فلا تجب على العبد لأن العبد لا يملك العبد الاسكلاب لا يملك وما في يده ملك لسيده والثالث ملك النصاب وسيأتي بيان الأنصبة والرابع مذي الحول إلا ما استثني كما سيأتي إن شاء الله والخامس استقرار الملك فإذا كان ملكه غير مستقر فلا تجب الزكاة فيه والمال غير المستقر هو ما يمكن إسقاطه فلا يستحق صاحبه شيئا منه مثل مهر المرأة قبل دخول الزوج بها طيب puis dit Cheikh Saadi رحمه الله تعالى elle est obligatoire. Az-zakat, elle est obligatoire pour chaque musulman hur, libre, qui n'est pas esclave. Musulman libre. Malaka nisaban, et qui a en sa possession le nisab, c'est-à-dire le seuil. Le seuil au-dessus duquel la zakat devient obligatoire. Donc il dit le cheikh, elle est obligatoire pour tout musulman. Car Allah il a dit « Wa'atu az-zakat » et verser la zakat, c'est un ordre. « Wa'atu az-zakat » D'accord ? Et ça vaut même pour les enfants. D'accord ? Si ton enfant, il a des biens en son nom, ou il a de l'argent, il a un compte en banque, avec de l'argent qui lui appartient à lui, c'est à toi de sortir pour lui la zakat. Pas comme font certains qui additionnent les biens de toute la famille. Non. C'est chacun sa zakat. La femme a sa zakat, l'homme a sa zakat, l'enfant, etc. Garçon comme fille. T'as vu ? Parce qu'il se peut que si tu additionnes tous les biens de la famille, il se peut que tous les ans tu vas sortir la zakat. D'accord ? Mais c'est une erreur de faire ça. Alors que si tu... évalue et estime la zakat de chaque personne, il se peut que personne en vérité ne doit sortir la zakat au final, d'accord? Donc tu regardes, si ton enfant il a une somme d'argent ou des biens qu'il a en sa possession depuis, on verra inchallah, une année lunaire et que ça a dépassé le seuil, tu dois la sortir pour lui. En vertu du hadith d'Ibn Umar, radiallahu anhuma, qui remonte bien sûr jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est archi connu. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est construit sur cinq. Est construit sur cinq choses. Premièrement, l'attestation, la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'accomplissement de la salat, le versement de la zakat, le pèlerinage et le jeûne de Ramadan. Et le jeûne de Ramadan. D'accord ? Hadith muttafaqun alayh. C'est le jour muttafaqun alayh ?
Rapporté par un
musulman. Non. Commence par le Bukhari, c'est mieux. Le Bukhari est musulman. Le Bukhari, c'est plus authentique. Son sahih, il est plus authentique que celui de musulman. Au niveau du degré de densité, là. Et ce hadith, les frères, ça ne veut pas dire que l'islam, c'est que ça. L'islam, ce n'est pas que l'attestation, ce n'est pas que la prière, ce n'est pas que la zakat, ce n'est pas que le jeûne, ce n'est pas que le pèlerinage. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il a dit « Bouni al-islam ». C'est-à-dire que l'islam, il est fondé sur ça. Mais un bâtiment, il n'a pas que des fondations. Un bâtiment, il a des murs. D'accord? Il a des murs, il a des portes, des fenêtres, des plafonds, des toits. Hein? Donc, juste l'expression « Bouni al-islam », l'islam est bâti sur, ça prouve que l'islam, ce n'est pas que ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres obligations. Si, il y a d'autres obligations. D'accord ? Non. Ça, cette fa'ida, on la retrouve dans le charh des 40 hadiths nawawiyya de Cheikh Saleh al-Sheikh. Hafidhahullah. Parce qu'il dit, c'est quoi l'intérêt ? Parce que l'imam Nawawi, rahimahullah, il a ramené, comme vous savez, le hadith de Jibril, alayhi salam, dans lequel on a les cinq piliers de l'islam déjà. On les a déjà. L'islam. Et le hadith qui vient juste après, c'est celui-là. Donc il dit pourquoi ? Alors que déjà, on avait déjà les cinq piliers dans le hadith de Jibril. Pourquoi il nous mentionne en plus un autre hadith qui nous mentionne les mêmes piliers ? D'accord ? Eh bien, il dit c'est pour nous faire comprendre en vérité que l'islam, c'est pas que ces cinq choses-là. Parce que si tu prends que le hadith de Jibril, il se peut que tu comprennes que l'islam, c'est que ça. Ma huwa l'islam ? L'islam, intashadan la ilaha illallah. C'est vrai ou pas ? Il lui dit c'est quoi l'islam ? Il lui dit l'islam, c'est ça, 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 les cinq piliers. Donc toi, quand tu lis ce hadith, Jibril, tu pourrais croire que l'islam, c'est que ça. Donc il a mentionné le hadith suivant, qui est celui-là, qui te fait comprendre que l'islam, il est bâti sur ces piliers-là. Que ce n'est pas que ces cinq piliers-là, mais c'est bien plus que ça.
D'ailleurs.
Puis il dit, il va mentionner les cinq conditions qui rendent obligatoire la zakat. Donc il faut bien les retenir, les frères. D'accord ? Il faut bien pour justement savoir si tu es ou si tu fais partie de ceux qui doivent la verser. Premièrement, l'islam, bien sûr. L'islam. Donc la zakat, elle n'est pas obligatoire au kafir. Tu ne peux pas imposer au kafir, un gouvernement, ne peut pas imposer la zakat à un kafir. D'accord ? Il peut lui imposer autre chose s'il veut, parmi les impôts qui sont nécessaires pour son pays, par exemple, mais imposer la zakat religieuse à un kafir, non. Parce qu'elle est imposable que pour le musulman. Deuxième condition, al-hurriya, la liberté. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire à l'esclave. Pourquoi ? Parce que l'esclave, il ne possède rien. Il ne possède pas. Au contraire, tout ce qu'il possède, en vérité, ou tout ce qu'il a, eh bien, c'est son maître qui le possède. Tout ce qu'il a, c'est son maître qui le possède. D'accord ? Donc en vérité, c'est son maître qui devra sortir la zakat par rapport à ce qu'il a, à ce qu'a son esclave. Vous voyez ? Donc la liberté. Donc pour l'instant, alhamdoulilah, nous tous concernés, inshallah. Hein, okay. Troisièmement, le fait de posséder un nisab. On a vu le nisab, j'ai pas de traduction, yani. Nisab, c'est le seuil. Le seuil.
C'est degré.
Hein?
Degré. C'est l'obligation.
Non, le seuil. Nisab, c'est le seuil au-dessus duquel la zakat est obligatoire. Et on verra par la suite vraiment quels sont les seuils. Parce que c'est, il n'y en a pas qu'un. Tu as les seuils pour tout ce qui est richesse monétaire, l'argent, l'euro, le dollar, dinar, dirham. Après, tu as aussi les troupeaux. Tu as les troupeaux, tu as ce qui sort de la terre, tu as plusieurs choses après, d'accord? Bon, nous, la plupart d'entre nous, on connaît que le seuil de l'argent, parce que nous, pour l'instant, ne possède pas plus que ça. Mais celui qui a un troupeau, par exemple, il devra se renseigner sur ces seuils-là, qui ne sont pas pareils. Quatrième condition, mudhi al-hawl. Mudhi al-hawl. C'est-à-dire, il faut que cette richesse en ta possession soit restée justement en ta possession pendant une année entière. Une année entière sans redescendre en dessous. Une fois qu'elle redescend en dessous, hop, c'est fini, tu repars à zéro. D'accord? Par exemple, si ta richesse a dépassé ce seuil le 15 de Ramadan et que le 15 de Ramadan suivant, de l'année suivante, ce n'est pas redescendu en dessous, tu devras sortir la zakat. D'accord? Non. Sauf, il dit, sauf exception. Sauf exception, parce qu'il y a aussi des biens pour lesquels tu n'as pas besoin d'attendre une année. D'accord? Et encore une fois, on le verra pour ceux qui possèdent des bétails ou autres. El-Khamis, cinquième condition, istiqraru el-milk. Non. Istiqraru el-milk. Il faut que la propriété ou la possession de ce bien-là, il soit stable. Il n'est pas possible de te l'enlever. C'est pas possible. Taïeb. Fala yastahiqqu sahibuhu shay'an minhu. Car si on te l'enlève, bien tu n'auras plus droit à pouvoir en bénéficier. Par exemple, la dot de la femme avant que son mari n'ait eu de rapport avec elle. D'accord? Imagine. Il se marie, l'homme donne à la femme la dot, par exemple, 10 000 euros. Mais il n'a pas encore eu de rapport avec elle. Il s'est pas isolé avec elle encore. Ni isolé, ni eu de rapport. Et il la divorce. Est-ce qu'elle peut garder cet argent-là? Non. Elle ne garde pas l'argent. Elle rend la moitié. Elle rend la moitié. Et non. Hein? J'ai pas compris.
La seconde chose, elle doit payer alors.
Elle doit payer.
Parce que si elle a 10 000 euros, si elle a la moitié, il restera 5 000.
Non, mais sur sur les 5 000, quoi. Ça veut dire qu'avant qu'elle ait eu de rapport, en fait, elle ne prend pas en compte cette dot-là. Jusqu'à ce qu'elle soit vraiment fixe et qu'on ne peut plus lui enlever, en fait. D'accord? Mais tant qu'il y a cette période-là où on peut encore lui enlever, elle ne sort pas la zakat dessus. C'est logique. D'accord? Non.
Même sur les 5 000.
Non, c'est le... après, si elle a les 5 000. Si ça reste un an, après, il sortira sur les 5 000. Non. Ça y est? Mais on parle de l'argent qu'on peut lui enlever. Là. Cette portion-là, qu'on peut lui enlever, elle ne les prend pas en compte pour l'instant. Jusqu'à ce que son mari, il ait un rapport avec elle ou qu'il s'isole avec elle. De la main qui disent même s'il s'isole avec elle, dans un endroit où ils peuvent avoir des rapports sans qu'il y ait des gens qui les voient, même s'ils n'ont pas eu de rapport, elle garde la dot. Elle garde la dot. Elle a. Elle garde la dot. Elle garde les 10 000 euros. Jackpot. Ils ont bu un thé. Ils ont bu un thé. Là, ils ont mangé. Ça te fait rire, Ken. Inch'Allah. Taïeb. Alhamdulillah. On continue après l'aide, Inch'Allah. Tu montres après.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
5 minutes, dans 5 minutes. 5 minutes.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
يقول الشيخ ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. Puis il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, et donc il n'y a pas d'obligation de verser la zakat sur les biens tant que une année entière ne s'est pas écoulée. Tant qu'une année entière ne s'est pas écoulée. طيب يقول اي يمضي عليه حول كامل. Le hadith est Ali مرفوعا ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول أخرجه أبو داود وقال رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي لم يرفعوه أوقفوه على علي وعن ابن عمر مرفوعا من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه أخرجه الترمذي وضعفه مرفوعا ورواه موقوفا وقال هذا أصح. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول أخرجه ابن ماجه والبيحقي وضعفه وقال الصواب أنه موقوف على عائشة وقال والاعتماد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم. بيجي الشيخ القصير رحمه الله تعالى donc une fois que l'année une année complète lunaire, bien sûr, pas solaire, on prend pas en compte l'année solaire. On ne dit pas l'année, par exemple, du 15 décembre au 15 décembre. Non. On va prendre en compte le calendrier lunaire et pas solaire. D'accord ? Entière s'est écoulée, à ce moment-là, la zakat devient obligatoire. En vertu du hadith de Ali, qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Il n'y a pas de zakat na'am tant qu'une année complète ne s'est pas écoulée. » Donc le hadith rapporté par Abu Dawud, rapporté par Shu'ba, Sufyan, Al-Thawri ou Ibn Uyayna. D'accord ? Ici, le problème c'est que lorsque tu vois Sufyan dans une chaîne de narration, yani, tu ne sais pas si c'est Sufyan Al-Thawri ou Sufyan Ibn Uyayna. Parce qu'ils ont vécu en plus à la même époque. C'est ça le problème. Donc ils sont au même niveau des chaînes de narration. Et après, il faut faire des recherches pour savoir si c'est l'un ou l'autre. Al-Muhim, le hadith, en vérité, dans sa version authentique, ne remonte pas jusqu'au prophète. Il s'arrête à Ali. Il s'arrête à Ali. C'est une parole de Ali, radiallahu anhu. Et également, rapporté par Ibn Umar, jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, celui qui a des biens, il n'a pas de zakat sur ce bien-là, tant qu'une année complète ne s'est pas écoulée. D'accord ? Inda Rabbi, pour son Seigneur. C'est pour son Seigneur, sa zakat, elle n'est pas obligatoire tant qu'une année entière ne s'est pas écoulée. Le hadith l'a rapporté par At-Tirmidhi. Mais, encore une fois, la version qui remonte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est faible. Et celle qui est authentique, c'est celle qui est mawquf, celle qui s'arrête au compagnon, ici, qui est Ibn Umar. Ibn Umar. Et également le hadith d'Aïcha, رضي الله عنها مرفوعا qui remonte jusqu'au prophète صلى الله عليه وسلم et qui a dit pas de zakat obligatoire sur les biens tant qu'une année ne s'est pas écoulée. Celui-là rapporté par Al-Bayhaqi et Ibn Majah. Et Al-Bayhaqi l'a rendu faible. Puis il dit Al-Bayhaqi as-sawab, ce qui est correct, c'est que tous ces hadiths-là, ils s'arrêtent aux compagnons. Le premier s'arrêtait à Ali, puis Ibn Omar et le troisième à Aïcha. C'est tous des paroles des compagnons. D'accord? Puis il dit wal-i'timad, et le fait de se reposer dans les conditions, cette condition-là, pardon, de l'année entière qui doit s'écouler, le fait de se reposer sur ces athars, sur ces paroles des sahaba, radiallahu anhum, notamment, on a aussi des paroles d'Abu Bakr, on a aussi celles d'Uthman, on a aussi celles d'Ibn Omar, et autres que eux. D'accord? Donc on se repose sur ces paroles, en fait, les paroles des sahaba, sur cette condition-là, qui est que le bien soit resté en ta possession pendant une année entière. D'accord? Mais on peut dire que le jugement de la condition ou que le jugement du hadith, il est marfoua. Parce que les sahaba ne peuvent pas légiférer. Ils ne légifèrent pas des conditions sans qu'ils ne l'aient entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc même s'il est mawquf, même s'il s'arrête aux sahabi, aux compagnons, on dit que son jugement, il est marfoua. Son jugement, il est marfoua. Wallahu ta'ala alam. والعلم عند الله تبارك وتعالى et on reprendra deux semaines après l'Aïd, inshallah. Après l'Aïd, on se repose pendant deux semaines. Il y a beaucoup de frères qui sont absents, qui sont hajj, qui sont au bled et tout. Donc on reprendra deux semaines après l'Aïd. Demain il y a cours. Non, samedi je suis pas là. Donc le dernier cours c'est demain, inshallah. Fabarakallahu fikum. والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم